féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous.
Parole de femme.
Nous sommes avec Oumuba Sangaré, ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, ancienne députée également au Parlement de la CDAO, membre cofondatrice du Rassemblement pour le Mali de l'ancien président Ibeka, enseignante parmi d'autres fonctions. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie.
Pourriez-vous nous retracer votre parcours qui vous a finalement dirigé dans le domaine de la promotion de la femme?
Je suis enseignante de profession, professeur d'anglais. J'ai étudié au lycée de jeunes filles de Bamako. Après, j'ai fait l'école normale supérieure où j'ai étudié l'anglais. Et après ma licence, je suis revenu au même lycée pour enseigner l'anglais. J'ai enseigné pendant 4 ans et j'ai obtenu une bourse pour aller en Écosse, à Édimbourg, pour faire linguistics and English language speak and teaching. Donc, je suis revenu enseigner encore. J'ai enseigné pendant près d'une dizaine d'années et on m'a nommé directrice des études, ensuite directrice générale du lycée de jeunes filles, directrice générale chargée de l'administration scolaire et de l'encadrement des élèves. Donc pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé avec le comité d'action pour les droits de la femme et de l'enfant, une ONG qui s'occupe des droits, dirigée par une brave dame, Assa Diallo, son mari, qui est mon mentor et qui m'a vraiment initié dans la promotion de la femme. J'ai également travaillé avec le corps de la paix américain. Je leur ai enseigné les langues nationales, le français, et je me suis intégrée dans leur mouvement pour femmes et développement, Women in Development. Et là, j'ai appris beaucoup de choses également sur la promotion de la femme. Et cela, je pense que ces deux réunions, cela a été un déclic pour moi. Et voilà comment je suis venue dans la promotion de la femme.
Lorsque vous étiez ministre de 2013 à 2017, c'était en pleine période d'invasion djihadiste. Quelles étaient les priorités d'alors au Mali et quelles sont vos principales réalisations?
Effectivement, j'étais ministre entre 2013 et 2017, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Une période très trouble pour le Mali, et avec beaucoup d'inquiétudes de part et d'autre, des personnes déplacées, déplacées internes, déplacées externes. Donc, malgré cela, il y a eu la résilience, une forte résilience des populations, et nous avons tenu quand même. Et au niveau du ministère de la promotion, malgré toutes ces difficultés, nous avons quand même réalisé beaucoup de choses. La première chose, c'était mon grand objectif, l'objectif de toutes les femmes du Mali, c'était d'avoir une loi sur le genre. Donc, il fallait, l'Union africaine a dit 50%. Mais je savais qu'à ce moment, on ne pouvait pas avoir 50%. Donc, nous avons demandé 30%. 30% de représentation des femmes dans les instances électives et nominatives. Cette loi a passé à la satisfaction de toutes les Maliennes et aussi de certains Maliens. Parce qu'il faut reconnaître que les députés m'ont quand même aidé à voter cette loi. Il y a aussi ce qu'on a pu faire, la mise en place d'un fonds pour l'autonomisation des femmes et l'épanouissement de l'enfant. Donc ce fonds qui sert à appuyer les femmes nécessiteuses pour leur activité génératrice de revenus. Et nous avons créé des centres d'autopromotion où les femmes vont travailler pour s'autosuffire. Et également, nous avons fait une grande rencontre avec les déplacés internes et les déplacés externes. Près de 300 familles sont venues et nous avons fait des rencontres pour les encourager à retourner dans leur région et dans leur famille d'origine, en leur donnant des kits de dignité, des matériels de travail pour qu'au retour, elles puissent trouver quelque chose à faire. Nous avons également formé les femmes qui sont restées sur place pour qu'elles puissent s'entendre et vivre ensemble. Donc voilà ce que nous avons pu faire, en tout cas beaucoup d'activités. Ça a été une réussite et la résilience des populations nous a facilité beaucoup de choses.
Aujourd'hui, qu'en est-il de la condition de la femme au Mali et en particulier dans les zones où la question sécuritaire est encore une préoccupation?
Bon, la condition de la femme au Mali, c'est comme partout, hein, les femmes sont marginalisées. Et en plus des questions sécuritaires, il y a d'autres préoccupations, l'analphabétisme et les mamans qui ne comprennent pas le changement de comportement. Donc vraiment, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer la condition des femmes. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Sangaré, vous avez également été à l'Assemblée nationale malienne sous ATT de 2002 à 2007. À cette époque, quelles ont été les principales mesures législatives en matière de droits des femmes et de l'enfance?
Oui, j'ai été députée de 1997 à 2002 et de 2002 à 2007. Et à cette époque, nous avons pris une mesure réglementaire, c'est-à-dire un amendement à la loi sur la charte des partis politiques. C'est-à-dire les femmes députées. J'étais vice-présidente alors de l'Assemblée et nous avons pu obtenir du gouvernement un bonus de 5% pour les partis politiques. 5% de leur financement en plus pour les partis politiques qui mettent des femmes sur les listes et qui les font élire. Et 5% également du financement des partis politiques pour les partis qui acceptent de mettre les femmes sur les listes à la députation, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Même si les partis n'ont pas appliqué correctement, en tout cas, ils ont eu l'argent. Mais vraiment, je ne peux pas dire que les femmes ont profité beaucoup de ces bonus-là. Il y a eu une nette amélioration, en tout cas. Et pendant que j'étais vice-présidente de l'Assemblée nationale, j'ai demandé au niveau de l'USAID des ordinateurs pour les femmes. Alors les hommes députés ont dit, mais pourquoi tu demandes pour les femmes? J'ai dit, mais nous sommes 147, alors que les femmes ne sont que 14 députés. C'est plus facile de nous donner 14 ordinateurs et de nous apprendre à les utiliser. Et l'USAID a compris cela et nous a donné 14 ordinateurs et nous a formés et nous avons installé ces ordinateurs. Mais le jour de la réception de ces ordinateurs, nous avons eu quand même la présence d'esprit, l'amabilité de dire que ce sont des ordinateurs pour tous les députés, pour les 147 députés. Et les députés ont applaudi, ils étaient contents. Et imagine-toi encore, c'est eux qui ont utilisé beaucoup plus les ordinateurs que les femmes.
Et qu'en est-il de l'évolution des droits des femmes depuis cette époque? Y a-t-il évolution ou régression, notamment au niveau du code de la famille?
Il y a une évolution, certes. Il y a une évolution. Bon, le code de la famille n'a pas passé d'un coup parce qu'il y a eu trop de problèmes. Mais la loi a passé et la loi prend en charge certaines parties du code de la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de le relire. Le corps de la famille sous une autre forme et Inch'Allah, nous espérons que ça va réussir.
Aujourd'hui, le Mali est sous régime militaire. Qu'en est-il de la participation des femmes en politique? Êtes-vous satisfaite de leur représentation? Et que préconisez-vous pour une meilleure présence des femmes au sein de la transition malienne?
Oui, on est sous un régime militaire. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième. Bon, on est sous ce régime et on essaie de faire avec. Et pour la représentation des femmes, on peut pas dire qu'on est satisfait, mais il y a une amélioration. Et il faut persévérer dans ce sens, et faire des plaidoyers, faire des lobbies auprès du gouvernement pour que le gouvernement nomme beaucoup de femmes dans les instances de décision. Parce que la transition est une période quand même pleine d'opportunités pour les femmes, pour qu'elles puissent demander leurs droits. Et je pense que cela se passe maintenant. Au niveau du ministère de la promotion de la femme, il y a eu une demande pour faire accepter beaucoup de femmes pour les concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. Il y a eu des mesures spécifiques et cela est une avancée.
Oumouba Sangaré, vous êtes fondatrice de l'AFADEV et du GAFEP. Pouvez-vous nous présenter brièvement ces deux associations et nous dire de quelle manière vous participez au développement socio-économique de la femme et de la jeunesse?
Oui, je suis membre de deux associations que j'ai créées. L'Association des femmes pour les actions de développement, AFADEV. C'est une association qui s'occupe essentiellement de la promotion socio-économique des femmes. C'est-à-dire, nous les préparons à la base, elles se mettent ensemble, elles font des tontines, elles font des activités génératrices de revenus comme la fabrication de savon, de pâte, de beaucoup d'autres choses qu'elles vendent et dont les revenus leur reviennent pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a aussi le GAFEP, groupe d'action pour l'épanouissement de la femme, de l'enfant et de la famille, GAFEP, qui est une association également avec les femmes à la base que j'ai créée quand j'étais députée. Cette association s'implique essentiellement dans la formation politique des femmes. La formation politique, c'est-à-dire comment se porter candidate, comment participer aux réunions, qu'est-ce qu'il faut dire pendant les réunions, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand il y a des réunions, comment s'impliquer dans la vie du parti, ne pas rester en marge. Et nous faisons des formations en éducation civique et politique des femmes et nous appelons les experts pour les former dans cela. Cela a fait que beaucoup de femmes sont devenues maires à la base dans les collectivités et beaucoup sont devenues également députées.
Quels sont les défis à relever au Mali en matière d'égalité des chances pour les femmes? Est-ce que la tradition patriarcale représente toujours un frein au développement du plein potentiel des jeunes filles?
Évidemment, il y a des défis en matière d'égalité des chances pour les femmes. Bon, il y a le défi de l'alphabétisation d'abord, c'est-à-dire l'analphabétisme. Et l'analphabétisme, surtout avec la situation sécuritaire, ça s'aggrave, les écoles sont fermées. Les enfants ne vont pas à l'école, exceptionnellement les filles, bon, ça pose des problèmes. Donc, ce sont les grands défis. Et quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, c'est la précarité. Et ça veut dire que les femmes ne peuvent pas se prendre en charge, toujours sous la charge des hommes. Donc, ça pose des problèmes, des défis énormes.
Vous êtes ancienne directrice du lycée des jeunes filles de Bamako, où vous avez vous-même étudié, comme vous l'avez précisé en début d'entretien. Pouvez-vous nous parler de cette période d'enseignement? Que retenez-vous de leur motivation?
L'enseignement est un enseignement très riche pendant cette période. J'ai appris à connaître les adolescentes, à travailler avec elles, à échanger avec elles, à les comprendre. Et elles ont également appris à nous comprendre. C'est-à-dire, les initiatives que nous avons prises, c'était pour elles, c'était pour leur bien. Je pense qu'elles ont compris cela et nous avons également impliqué beaucoup de parents, d'élèves. J'ai fait des professeurs mes alliés et chaque fois que je voulais prendre des décisions concernant les élèves, je les faisais avec les professeurs et avec les élèves même. Donc, vraiment, c'était une période très riche. J'ai appris beaucoup de choses. À connaître les jeunes filles et à comprendre leurs problèmes et leurs préoccupations.
Vous avez donc enseigné l'anglais ainsi que le bambara et le fulani. Que retenez-vous de l'enseignement linguistique et pourriez-vous nous donner votre analyse sur la question des langues maternelles ou régionales en Afrique?
Oui, j'ai enseigné l'anglais. Je suis alphabétisée dans les langues nationales, surtout en bambara et en fulfulde. Je suis alphabétisée, je peux lire, je peux écrire ces langues-là et je peux les enseigner. C'est ce que je faisais avec le corps de la paix. Et je faisais des tests pour voir leur niveau et voir comment ils pouvaient s'intégrer dans notre société. La question des langues maternelles, c'est une question cruciale et c'est à l'ordre du jour au Mali. Il y a eu une grande rencontre dernièrement sur le programme d'éducation nationale aux valeurs. c'est-à-dire comment intégrer nos langues nationales dans notre éducation, dans notre système éducatif. Ce n'est pas facile après 60 ans de colonisation, ce n'est pas facile, mais nous allons essayer quand même, nous allons essayer. Il y a eu des écoles pilotes qui n'ont pas marché parce que les gens n'ont pas beaucoup évolué, le mental n'a pas évolué pour que les parents amènent leurs enfants dans ces écoles rurales où ils sont enseignés dans les langues nationales seulement. Mais ça va se faire, ça doit se faire, ça se fait dans d'autres pays qui ont commencé il y a longtemps, comme la Tanzanie, comme le Kenya, donc dans d'autres pays aussi, c'est bien possible.
Au plan politique, vous avez été présidente du Bureau national des femmes du Rassemblement pour le Mali sous l'ancien président Ibeka de 2001 à 2013. Quel a été le rôle joué par les femmes au sein de ce parti politique ?
Oui, j'ai été présidente du Bureau national des femmes du Rassemblement pour le Mali. Une mission très difficile parce que tout reposait sur la présidente. Il fallait trouver des initiatives, les mettre en œuvre, former les femmes et s'entendre avec le parti. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que ces bureaux de femmes sont nécessaires. En tout cas, pour moi, c'est nécessaire. Parce qu'entre nous femmes, ce qu'on peut se dire, on ne peut pas dire ça quand on est dans une assemblée. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire. Et petit à petit, on peut les remplacer, on peut les rendre mixtes. Mais pour le moment, c'est nécessaire parce qu'on se comprend mieux. Et on prend des initiatives et on force le parti à nous suivre dans ces initiatives-là. Et les bureaux de femmes peuvent servir beaucoup pour la formation des femmes.
Au plan régional, vous avez également été député au Parlement de la CEDEAO. Qu'avez-vous pu réaliser lorsque vous en étiez membre ?
Oui, là aussi, ça a été une période très importante pour moi parce que me voir au Parlement de la CEDEAO, ça voulait tout simplement dire que j'avais atteint un niveau où je pouvais parler de la promotion de la femme à toute l'Afrique. Et j'étais fière de représenter mon pays à cette assemblée. J'étais dans la commission femmes et nous avons initié la création du centre genre de la CEDEAO. Et nous nous sommes déplacés jusqu'à Banjul pour rencontrer le président d'alors. Et nous l'avons rencontré pour lui demander un siège du centre genre de la CEDEAO. Il avait même accepté. Mais les choses ont changé, il y a eu des changements. Et finalement, le centre est allé au Sénégal. Et jusqu'ici, le centre genre de la CEDEAO est au Sénégal. Mais nous travaillons ensemble. Quand j'étais ministre, nous avons travaillé avec ce centre. Ils sont venus au Mali et nous avons fait des formations ensemble. Donc, ça, c'était vraiment une très riche expérience. Parce que travailler avec tous les députés de la sous-région, c'était vraiment fantastique. Et je pense que nous avons réussi cela. J'ai fait 5 ans là-bas.
Pensez-vous que cela représente un handicap pour le Mali de ne plus être membre de cette organisation régionale ?
Bon, concernant l'appartenance du Mali ou la non-appartenance à la CEDEAO, je voudrais qu'on attende un peu pour parler de cela parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et on est dans un monde qui évolue, donc tout évolue, tout peut évoluer et souhaitons seulement que tout évolue dans le bon sens.
Quelle est votre vision pour le Mali, en particulier pour une certaine jeunesse parfois pessimiste ou désabusée? Comment l'inciter à être optimiste et constructive malgré les difficultés ou les obstacles à surmonter?
Ma vision pour le Mali, aujourd'hui vraiment, je voudrais dire que nous sommes dans une période vraiment difficile, mais on ne désespère pas. En tout cas, moi je ne désespère pas. Je ne désespère pas parce que j'ai fait partie d'une époque, j'ai vu beaucoup de choses. Je suis née pendant la colonisation, j'ai grandi pendant l'indépendance, et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai été bien formé civiquement, j'ai été bien formé en citoyenneté. Donc j'aime mon pays. Donc ce que je vois pour mon pays, c'est la paix, la prospérité, que le malheureux devienne ce qu'il était avant, c'est-à-dire un pays d'hospitalité, un pays de solidarité et d'entraide, un pays où il fait ses bons livres avec tous ces touristes qui venaient dans toutes les régions du Mali, qui s'entendaient. Il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas de différence entre les ethnies, il n'y avait pas de polémique entre les ethnies. Bon, tout le monde vivait ensemble. Et quand les femmes sont en avant, elles peuvent réaliser beaucoup de choses parce qu'elles sont des vraies citoyennes, de vraies patriotes, et elles aiment leur pays. Et elles n'aiment pas la guerre, elles n'aiment que la paix, la paix et la paix. C'est ma vision pour le Mali.
Sangaré, ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, enseignante, militante des droits humains, merci beaucoup d'avoir partagé une partie de vous-même dans le monde au féminin de VOA Afrique.
Merci beaucoup Nathalie.
Au revoir, bien les choses à toute l'équipe. Merci, bye bye.
Sur 5 ne termine pas le premier cycle de l'enseignement secondaire et 4 sur 10 ne termine pas le second. Des millions de filles de 5 à 14 ans consacrent plusieurs heures par jour au travail domestique. Des dizaines de millions sont mariées de force et quittent l'école. J'ai demandé à la scientifique congolaise Céline Sikulisimwa, professeure d'hydrochimie à la faculté des sciences et technologies de Kinshasa, que faire pour promouvoir l'éducation des filles et respecter leur épanouissement personnel?
Qu'on donne la possibilité à ces femmes-là de pouvoir s'exprimer, parce que souvent ce sont des brimades, on arrive dans des milieux où les femmes ont appris cela de leur grand-mère, de leur ancêtre. La femme n'a rien à dire en milieu public. Elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas exprimer ses besoins, elle ne peut pas refuser ce qu'on lui dit de faire. Elle doit obéir de manière aveugle, par exemple, aux parents. Et tout ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. Et particulièrement dans les secteurs des sciences, là c'est encore pire. Lorsque la fille veut se choisir un domaine qui l'intéresse dans le domaine de sciences et dans le milieu où il n'y a pas beaucoup de modèles, bien, on a tendance à la masculiniser parce qu'elle se permet d'aller faire les études des sciences. Moi, je me rappellerai quand j'ai commencé mes études en chimie. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres qui ont vécu la même chose. On a tendance à vous empêcher d'aller vers vos choix. Et si ces choix sont faits, bien, on vous démontre que c'est des filières qui sont réservées aux hommes. Mais à la longue, ben, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout dans nos milieux ruraux, dans les milieux où les moyens ne suffisent pas. Et quand les moyens ne suffisent pas en famille, par exemple, eh bien, on pense sacrifier une personne, et les facilement sacrifiables sont les filles. Et quand on les marie, eh bien, on diminue le nombre de bouches à nourrir. Et c'est des défis comme ça auxquels notre société a affaire, mais il y a autant d'éléments sur lesquels on peut discuter sur cette histoire d'empêcher aux filles de s'épanouir totalement.
C'était Dr Céline Sikulisimwa, professeure d'hydrochimie à la faculté des sciences et technologies de Kinshasa en République démocratique du Congo. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.